Voilà. Alors, merci d'être ce soir avec nous pour une rencontre intitulée « Éditer et diffuser la bande dessinée africaine en Europe, 40 ans de combat », une rencontre animée par Christophe Cassiori, qui est directeur des services au public à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, éditeur, critique, auteur de nombreux ouvrages sur la bande dessinée africaine et qui va ce soir nous présenter les derniers travaux et qui va parcourir la problématique énoncée avec Robert Wasi des éditions Mandala Africa BD et Christophe Ngalé Edimo, scénariste qui vient de sortir un nouvel album aux éditions Les Enfants Rouges dont il va nous parler. Voilà, je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup. Bon, on va essayer de faire court. Hein. Plus c'est court, plus c'est bon, selon ma femme. Alors, je vais d'abord présenter les deux collègues. Donc, à ma droite, avec sa casaque noire, donc Robert Wasi, qui est professeur à Rouen. Je crois que vous êtes professeur de géologie, me semble. Qui est originaire de la République démocratique du Congo, pays où vous allez souvent pour donner des cours, du côté du Kivu, Bukavu ou bien Goma, je ne sais jamais.
Goma.
Très belle ville, ravagée par le volcan en 2002, qui est également éditeur de bandes dessinées, donc Mandala Africa BD, qui fait faire remarqué au cours de ces dernières années en ayant édité une trilogie sur Simon Kibangu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'un des grands prophètes congolais qui a créé une nouvelle religion à l'époque coloniale. Kibanguiste, mais c'est quoi? C'est l'église des amis des Noirs? Non, l'église... je ne sais plus le nom.
L'église kibanguiste, en fait. Tous ceux qui se reconnaissent... c'est plutôt une lutte politique qui a commencé, mais qui a eu une implication religieuse et qui a fait en sorte que le Congo aujourd'hui soit indépendant. Donc c'est plutôt une histoire politico-religieuse.
Est-ce qu'on peut faire circuler les albums?
Parce que oui.
Juste pour vous montrer. Donc c'est fait par Serge Diantantou, qui est aussi un auteur originaire de RDC, qui a également publié un album numéro 4, L'amour sous les palmiers, qui est un album sur le sida, la séropositivité. Et
tout à fait.
Et Robert a également deux albums un album sous presse, un très bel album d'ailleurs d'un auteur du Congo Kinshasa également. Également Séraphin Kadjibouami, dont voici quelques planches, qui était un témoignage sur la guerre au Kivu, je schématise. Hein. Et un autre album collectif qui, je l'espère, sortira à la fin de l'année avec des auteurs originaires d'Afrique. Voilà. Donc, à gauche, c'est Christophe Ngalé Edimo, qui est éducateur spécialisé à Beauvais.
Non. De la protection judiciaire de la jeunesse.
Pardon. Ok. À Beauvais, mais également c'est scénariste et qui est franco-camerounais, hein,
oui.
Papa camerounais, maman française, et qui est donc qui sort régulièrement des albums, beaucoup de collectifs dans différentes maisons d'édition, dont l'association que tu as créée il y a maintenant 10 ans, à peu près 11 ans, 2001-2002,
ouais, c'est ça, ouais.
L'Afrique dessinée.
Oui.
Et son dernier album, c'est un album très original, La Chiva Colombiana, qui se passe en Colombie, dans le milieu, on va dire, le milieu négro-colombien, quoi, en quelque sorte. Aux deux tiers de l'album. Quoi. Donc il se passe en Colombie, qui a été fait avec un dessinateur congolais, qui s'appelle Fatih Kabwika, qui a un vrai talent. Maison d'édition Les Enfants Rouges, donc je l'ai acheté, je le recommande, je l'ai recommandé.
Merci.
Tout, hein. Mais celui-là particulièrement, il y a une vraie histoire, et puis tu vas peut-être pouvoir nous parler aussi de comment est-ce qu'un dessinateur congolais de RDC n'ayant jamais sorti n'étant jamais sorti de son pays, a pu travailler sur un album qui passe en Colombie en 2009, 2008, 2009, 2010. Quoi.
C'est relativement simple.
Oui, oui, je suis sûr. On peut peut-être le faire passer, ouais. Merci. Merci. Voilà. Et puis moi. Voilà. En 5 minutes, hein, vous parlez de la BD en Afrique, c'est juste une question de temps, ça va aller assez vite. Si on peut dire que la peinture africaine s'exporte bien, si le cinéma africain a de l'audience, si la musique, ô combien, la musique africaine a de l'audience, la BD en Afrique a du mal à émerger, et dans les pays concernés, mais également en Europe. Pratiquement personne ne peut citer d'auteurs africains. Ils sont en général assez inconnus. Beaucoup font plus que vivre, survivent plutôt qu'ils ne vivent d'expédients. Ils sont peintres le lundi, graphistes le mardi, publicitaires le mercredi. Ils font de la sculpture aussi, souvent. Ils travaillent beaucoup pour les ONG et pour des agences de publicité et autres. Et peu arrivent à produire des œuvres intéressantes. Non pas par manque de talent, mais souvent par manque de temps et aussi par manque d'opportunités, puisque le manque d'éditeurs se fait aussi criant. En Europe, c'est encore plus vrai. Beaucoup pourraient trouver une porte de sortie en Europe, sauf qu'il y a pléthore de productions. Donc, en gros, on ne les attend pas. Les Européens ou les Africains ou les Franco-Africains installés sur place sont souvent déjà demandeurs et ont un marché assez restreint. Donc, souvent, ils ont du mal à émerger. Sauf qu'il y a eu depuis quelques années des stratégies qui se sont mises en place et les Africains ont décidé souvent de s'unir, donc soit en créant des associations d'auteurs, soit en créant leur propre maison d'édition. C'est le cas donc de cette petite maison d'édition rouennaise qui depuis 10 ans, ouais, c'est ça, de 2002 le premier album, hein, depuis 10 ans produit tous les 2-3 ans des albums, avec un certain succès, je crois, puisque le tome 1 et le tome 2 se sont vendus à plus de 10 000 exemplaires, je me trompe ?
Non.
Ce qui est assez conséquent par le bouche à oreille. Voilà, je vais passer la parole à Robert Boisy, qui va peut-être nous parler en 5 minutes de sa maison d'édition, de ses succès et pourquoi vous avez créé cette maison d'édition, s'il vous plaît, et aussi comment est-ce que vous arrivez à diffuser vos albums, en fait, peut-être par un canal qui se veut peut-être plus original que les ventes en grande surface. Quoi. Et après, je passerai la parole à Christophe qui va parler de son parcours et aussi de la BD au Cameroun, puisqu'il en revient.
Vivant,
enfin, ouais, plus ou moins. Tu boites quand même.
Bon, merci Robert. Beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette petite journée. Hein, malgré tout, hein. On est censé se retrouver pour la deuxième fois et sous l'impulsion de Christophe. Hein, depuis que Christophe est là, il y a quand même déjà la première rencontre qui s'est effectuée au Quai Branly, hein, sous son impulsion. Et aujourd'hui, on se retrouve encore à parler de la bande dessinée africaine parce que lui, il est là et que nous étions chacun de son côté, essayant un tout petit peu de voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Mais vraiment, j'ai l'impression que depuis que Christophe est là, il a édité, fait publier l'histoire de la bande dessinée congolaise depuis ses origines jusqu'à maintenant. Et puis, il y a un autre bouquin qui est sorti. Mais je pense vraiment que c'est comme ça, avec de toutes petites rencontres, que de bouche à oreille, les gens se rendent compte que
on existe
et on a la volonté d'avancer.
Robert, merci. Voilà.
on a la volonté.
Je le mérite, mais ça fait du bien quand même.
Oui, je voudrais préciser que tu es né au Cameroun, ce qui explique ton intérêt pour cette chose.
Parlons de la BD maintenant.
D'accord.
Merci, hein, c'est sympa.
Bon, donc, de la géologie à la bande dessinée. Bon, mais en fait, moi, ma rencontre avec Serge Diatatou était tout justement la difficulté que lui, en tant que dessinateur, que j'avais vu quand même qu'il avait un certain talent, n'arrivait pas à trouver une maison d'édition. Bon, moi, je lui ai dit, Serge, moi, je suis intéressé par l'histoire politique et religieuse de Simon Kimau. Si ça t'intéresse, est-ce qu'on peut essayer de se mettre ensemble pour créer cette association loi 1901 et pour éditer la bande dessinée sur Simon Kimau? C'est comme ça que c'est parti. En 2002, vous avez le tome 1 qui est là. On a vu que cette bande dessinée, d'ailleurs, l'expérience que nous avons eue de commencer d'abord à la déposer dans les FNAC, c'était des choses qui n'allaient pas tout à fait. Mais on est parti maintenant dans des salons, Angoulême, des salons de Paris, et on a arrivé à regrouper l'argent qu'il fallait, parce que le premier tome, là, on avait 10 000 exemplaires, je pense, après 2-3 années, on avait déjà ce qu'il nous fallait pour le tome 2. Donc on a fait le tome 2, on l'a édité à 10 000 exemplaires. Et c'est comme ça que le troisième tome est venu et qu'aujourd'hui, le tome 1 et le tome 2 sont épuisés. C'était vraiment pour nous quelque chose d'encourageant qui montrait que les dessinateurs congolais... Pour moi particulièrement, moi je ne connaissais pas, je suis géologue, j'ai écrit en géologie, donc avait un certain talent et que c'était quand même aussi une orientation possible pour faire connaître la bande dessinée qui existait déjà par les autres qui étaient là et qui nous permettait d'avancer. Voilà, c'est ce qui a permis après, quand je suis reparti encore dans mes missions d'enseignement en Afrique, à Goma, de rencontrer, vous avez la planche originale de Séraphin.
Donc, je précise juste, donc c'est un album que Séraphin Kadjibouami, qui est un auteur congolais, a publié au Congo en 2008 de mémoire, ou 2007, et que vous êtes en train de rééditer.
Complètement refait,
c'est ça, je me rappelle.
Oui, complètement. Toutes les planches, de la première planche jusqu'à la dernière, il n'y a pas une planche qui a été... voilà.
Les dialogues aussi, tout ça. Parce
les dialogues ont été
refaits. Et ça raconte l'histoire d'un évêque assassiné en 96 de mémoire.
Oui.
Monseigneur Mouziniroa.
Mouziniroa.
Je ne sais jamais le dire. Qui a été assassiné parce que c'est un homme de paix qui essayait de s'opposer à... aux hommes en armes.
En armes, tout justement. Donc, c'est là aussi, regardez, il y a une toute petite, en noir et blanc, des planches que j'ai fait passer là pour des dessinateurs, disons, entre guillemets, des rues, que j'ai rencontrés sur place et qui montrent que ceux qui vivent sur place, quand ils ont vécu des événements, ils sont en mesure quand même de le porter et de pouvoir le faire une expression par rapport au graphisme qui est là. Voilà en gros ce que peux dire.
On peut dire que donc, la diffusion de Mandala Africa BD se fait, et d'une, par le bouche-à-oreille, et de deux, par les salons et festivals. Est-ce que le fait que ce soit Simon Kibangu, donc, qui est une bonne partie de la diaspora congolaise qui soit kibanguiste, est-ce que ça a pu avoir un impact? Alors, en gros, est-ce qu'il y a un réseau parallèle quoi?
Non. Tout justement, c'est ce que je disais, comme je disais tout à l'heure, nous étions vraiment étonnés parce que pour nous, le premier tome sur Simon Kimbangu, d'autant plus que les kimbanguistes, ils sont beaucoup, ils ont une certaine volonté de pouvoir porter leur église, nous étions complètement déçus de nous rendre compte que c'était quelque chose qui était loin de pouvoir les intéresser. Peut-être par la culture africaine aussi, qui ne permet pas nécessairement de lire. Nous, les BD, on les a écoulés, les gens nous ont encouragés. dans des salons des livres que nous avons fait, de petits salons tout autour de Rouen ou à Caen. Le salon des livres de Caen nous porte beaucoup, le salon des livres de Paris, Angoulême. Ce sont ces salons qui nous ont portés.
D'accord. Et les acheteurs étaient européens, africains?
La plupart de fois, nos acheteurs sont des Européens.
Donc ce n'est pas une comment dirais-je, ce n'est pas une édition de ghetto, en fait. Vous vous êtes adressé à tout le monde.
À tout le monde. Oui, autre chose, c'est que pendant cet été ici, il y a eu une conférence qui s'est effectuée à Kinshasa, tout justement, sur Simon Guémaou. Nous, on n'était pas invités, mais on était vraiment étonnés que la plupart de ceux qui sont de Congolais qui étaient partis à cette manifestation, l'ont montré, cette bande dessinée. Moi, on m'a envoyé des photographies, hein, ou des extraits de vidéos. Moi-même, j'étais un peu étonné de me rendre compte qu'au Congo, cette histoire-là est en train d'être connue par notre toute petite contribution qu'on effectue à partir d'ici. Il faut dire clairement que si on était au Congo, la BD de cette qualité-là, on n'aurait pas édité. On n'aurait pas le moyen ni la volonté de pouvoir le faire. Le fait d'être ici nous permet de faire des choses qui sont à ce niveau-là, de ce que vous avez entre vos mains.
Ok. Est-ce que vous êtes diffusé au Congo?
Non, pour le moment, tout justement, c'est ce que je disais. Par rapport aux revenus sur place, cette bande dessinée à 12-13 euros, à 15 $ sur place, c'est impossible.
Est-ce qu'on en trouve même dans aucune librairie, même chez Afrique Edition, Kinshasa?
Non. Donc pour le moment, nous, on a beaucoup réfléchi de ce côté-là, mais on pense que pour le moment, si on veut vraiment se consolider, c'est ici qu'il faut d'abord qu'on s'organise, et puis après, ça repartira.
Hein. D'accord. Merci, Robert. Bon, je passe la parole maintenant à Christophe. Peut-être que tu peux nous parler de ton parcours dans le monde de la BD. Tu commences peu à peu à percer, mais ça a été difficile. Ça fait 12 ans que tu essayes vraiment.
C'est très, très dur.
Oui, c'est dur. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait que tu t'intéresses à des histoires? Je connais la réponse, mais bon, tu t'intéresses majoritairement à des histoires se déroulant en Afrique? En fait, non, mais de fait, est-ce que c'est dû à ça, ou est-ce que c'est dû au fait que...
C'est dû au fait que j'ai pas assez de talent.
Ouais.
Bon, d'accord. Non, c'est vrai que, en fait, dès qu'on parle de l'Afrique, c'est un peu quand même difficile à vendre, y compris et surtout en Afrique. Il y a quand même un intérêt pour la bande dessinée en Afrique. Il y a des dessinateurs depuis Tintin au Congo. Tintin au Congo, c'est le début de la bande dessinée africaine.
C'est vrai, ça.
Oui, avec
incroyable, mais c'est vrai.
Le grand géant de la bande dessinée Afrique, qui est le Congo. Le Cameroun, ce n'est qu'un petit nain.
Ouais. Ouais. En fait, le pays rentre dans l'imaginaire des enfants par cette... BD, c'est un truc qui est...
Voilà, donc il y a quelque chose. On dit que le dessinateur belge, Georges Rémy, si je ne me trompe pas, qui l'a fait, oui, c'est un nazi, c'est ceci, c'est un colonialiste, tralala, tralalaire. Bon. Réponse d'un Congolais, oui, mais il nous a dessiné. Voilà, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui permet aux Africains d'exister dans un support. Bon. Et qui fait des émules, depuis le Congo jusqu'à Madagascar, et maintenant Côte d'Ivoire,
Cameroun aussi,
Cameroun, Mali et autres. Le gros souci, c'est d'être lu, d'être publié déjà, et d'être lu. Pourquoi j'ai été l'origine d'une association qui regroupe des dessinateurs en Europe? C'est parce que il est difficile de trouver une collection qui parlerait de l'Afrique. Parce qu'on pense que l'Afrique, c'est un genre. Comme le western est un genre, le roman noir, c'est un genre. Donc l'Afrique, en soi, ce serait donc un genre. On passe un peu de côté le fait que être un Africain n'est aucune qualité comme une autre, quoi. Donc on a dû se battre un peu contre le milieu des éditeurs, plus ou moins avec succès. Bon, il y a quand même eu la percée d'Aya de Yopougon, qui permet de faire comprendre que bon, on ne se limite pas à une position d'Africain, mais aussi à une position d'être humain. Hein. Et donc il peut y avoir une sorte d'universalisme dans les histoires qu'on peut dire. Donc on va dire que ça commence petit à petit à percer. Sans passer par le sensationnel. Le sensationnel, c'est quoi? C'est un peu comme parler de la guerre au Rwanda ou les massacres, etc. Quoi. Bon, bref, on commence petit à petit à exister sur le continent européen. En Afrique, c'est un peu plus compliqué. Il y a ce problème de pouvoir d'achat. Mais il y a des petites solutions locales qui sont trouvées. Donc, on ne va pas faire des bandes dessinées cartonnés et autres, mais plutôt des recueils pas trop chers. Donc celui-ci est de l'ordre de 300 francs CFA, c'est-à-dire 50 centimes d'euros à peu près. Celui-ci, 200 francs CFA, donc à peu près 40 centimes d'euros. Bon, ce qui permet d'avoir une diffusion un peu plus importante. C'est pas encore ça, parce qu'il faut faire face à la distribution, à l'impression, tout ça, qui, dans des pays qui sont encore des dictatures, sont très contrôlés. Mais petit à petit, ça commence à percer. Et puis, par l'intermédiaire de plusieurs genres de personnes, on commence à créer des petits salons de bande dessinée en Afrique. Qui dit salon dit opportunité pour le public, déjà, de pouvoir découvrir un support pour se voir et pour parler de lui-même, quoi. Enfin bon, voilà.
D'accord. Et concrètement, là, tu as donc deux albums individuels qui ont été publiés chez les Enfants Rouges, donc on peut les montrer. La Chiva Colombiana a tourné, mais celui-là a eu quand même pas mal de succès.
Oui. Est-ce que je peux montrer quelques images? Oui. Qui sont là.
Okay,
je peux passer par là.
Ouais. On a le temps. On ne prend pas le train.
Je n'ai pas fait le train long.
Attends, je te laisse. Assis-toi là.
Qu'est-ce que je voulais montrer? Enfin bref.
Prends celui-là.
C'est un peu petit. Hein. Oui, donc là, ça se passe à Bamako, où on a eu l'opportunité de diriger un atelier où il s'agissait de créer une bande dessinée avec la participation d'un certain nombre de dessinateurs.
C'était en 2003, c'est ça?
Non, en 2007. Dessinateur du Mali, Togo, Côte d'Ivoire et autres. C'est par là. Hein. Oui. Donc il s'agissait de raconter l'histoire d'une jeune femme qui quitte son village pour s'installer à la capitale avec les déboires et les joies qui accompagnent un parcours de ce genre. Ça devait déboucher sur un livre collectif. Donc le gros souci au Mali, c'est... je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Ok, super. Donc le gros souci au Mali, déjà, c'est le manque de contact avec un média que les dessinateurs aimeraient bien faire, mais ne maîtrisent pas trop. La bande dessinée. Donc il faut voir déjà à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est qu'être un dessinateur de bande dessinée, comment faire passer une histoire et s'approprier ce média-là en fonction de son propre art plastique. Donc c'est un peu ce qu'on a fait dans cet atelier, quoi. Ensuite, forcément, dès qu'il commence à y avoir un atelier, il y a le ministre et tout le tralala qui vient avec des caméras, mais c'est pas ça le plus intéressant. La production de l'atelier de contribuer à une sorte d'exposition, donc avec un public très restreint, parce que tout ce qui est de l'ordre culturel en Afrique, malheureusement, est l'apanage des gens très très riches. D'ailleurs, c'est ce passé-là qui est l'ancien palais du premier président de cette République. Par contre, il y avait une salle où les enfants pouvaient venir lire. Et donc là, il y avait un nombre d'enfants extrêmement gigantesque, avec malheureusement très peu de BD. Et donc, je me suis dit, c'est très intéressant. Il y a potentiellement un nombre de lecteurs considérable, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter des bandes dessinées. D'où le fait de contribuer à créer des bandes dessinées pas trop chères et disponibles pour un public en Afrique. Donc. Voilà, donc ça c'est d'autres images de l'atelier. Bon. Donc parallèlement, en région parisienne, on essaie de faire parler de la bande dessinée africaine comme on peut, à partir d'un atelier un peu poussiéreux qui se trouvait à Saint-Ouen. Et bon, enfin bref, oui, on rencontre de temps en temps des musiciens qui sont plus riches que nous et nous payent des bières et tout ça, mais bon. Enfin bref, c'est un peu ce que je voulais montrer, que bon, de temps en temps, on fait des démonstrations dans les bars. Hein, pour gagner notre vie, c'est quand même un peu compliqué, on ne vend pas assez de bandes dessinées. Les éditeurs nous disent très justement... Vous voulez faire de la bande dessinée, mais on ne voit jamais d'Africains à la FNAC, donc faites plutôt de la musique ou autre. Bon, nous, comme on est une bande de fous, on persiste. Heureusement, les bars nous ouvrent leurs portes et donc on arrive à faire des démonstrations dans les bars. Donc pour l'instant, c'est plus dans les bars que dans les librairies que ça se passe, mais grâce à Christophe, on espère bientôt avoir notre place dans les FNAC et autres. Voilà.
Production, donc bon, je n'ose pas tout toucher ce micro, mais j'ai l'impression qu'il va mal. Ok, pardon. Hein. Bon, voilà, je sais pas, vous avez des questions avant qu'on aille boire un coup?
Ah, oui, tu parlais de la bande dessinée. Oui, donc Christophe Cassio parlait de la bande dessinée de commande, c'est-à-dire des ONG. Qui propose à des dessinateurs de faire des œuvres qui parlent soit du sida, soit du paludisme, soit pour celle-ci de la criminalisation de la prostitution en Afrique. Et ce genre d'œuvres payées par des ONG ou des organismes internationaux sont très bien payées. Ce qui permet aux dessinateurs de vivre, mais en même temps... On peut se demander si les dessinateurs africains ne sont pas finalement des vampires de la misère en Afrique. Quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a pas mal de BD qui se passent en Afrique, même beaucoup, mais dans 95% des cas, le dessinateur est européen. On ne voit pas de dessinateur africain parler de l'Afrique. C'est rare. Bon, voilà, je ne sais pas.
Autre chose qui se passe en Afrique, c'est donc la publication du Sensationnel, donc le Popoli. Donc, c'est un journal qui parle de sensations. Donc là, il y avait une jeune femme dont le bébé s'est fait voler dans un hôpital. Donc voilà, vous allez voir, cette jeune femme va se venger, elle va en voler 40, etc. Bon. Et donc, c'est dessiné. Et ce genre de support un peu sensationnaliste, un peu populiste, a en tout cas le mérite d'exister et de faire vivre quelques dessinateurs. Donc grosso modo, ça se passe entre ce genre de publication et celui-ci, qui est relativement neuf.
Bon, ceci étant dit, c'est le seul journal satirique qui tient la route depuis maintenant 11 ans, 12 ans quoi, à peu près. Hein.
Au Cameroun, oui.
Ouais, depuis 20 ans. 92, ouais, je dis 11. Tous les autres ont coulé au bout de deux ou trois ans d'existence.
Ils ont coulé des fois parce que toute la rédaction s'est retrouvée en tôle.
En prison, ou bien censure, ou bien voilà. augmentation du prix du papier.
Donc celui-ci n'est pas très intéressant ni très dangereux, donc ils existent depuis 20 ans. Ouais. Mais si vous voulez le voir néanmoins pour... votre édification, donc voilà.
Une idée. Bien sûr.
On ne peut pas parler de la collection.
Ben non.
Est-ce qu'on peut parler de certaines collections qui existent, notamment l'Harmattan bande dessinée, et qui permettent de regrouper un certain nombre de dessinateurs? Ce bouquin, par exemple, Tinbi Yeto, parle des 20 dernières années en Afrique du Sud. Et
il y a 11 créateurs africains.
Voilà, donc il y a 11 dessinateurs de plusieurs pays. Donc ça permet une visibilité pour l'instant restreinte, mais ça a le mérite d'exister. Et on espère que la diffusion va suivre. Donc si vous voulez également le voir.
Il est déjà diffusé.
Ah oui, d'accord, super.
Voilà, mais on a interrompu la demoiselle.
Juste une petite question par rapport à la diffusion en Europe, par exemple. Est-ce que les auteurs africains se basent, par exemple, sur des applications mobiles maintenant? Je sais qu'aux États-Unis, ça existe avec Historia et d'autres. Est-ce que ça permet une diffusion un peu plus... Non, du tout.
On en est loin. Il y a quelques petites tentatives que j'ai pu constater. Mes deux collègues diront peut-être vont compléter, hein, mais que j'ai pu constater à Madagascar via des sites plus ou moins payants, mais des applications mobiles, non, on en est loin, quoi. Or, la téléphonie mobile a envahi l'Afrique, ça c'est incontestable, c'est l'un des grands marchés avec le marché de la bière qui ne tombe pas, quoi, qui même en... Mais est-ce que c'est une solution? Je sais pas.
C'est moins cher en tout cas.
Mais je sais pas. Robert qui n'a pas beaucoup parlé.
Non, mais c'est une orientation de réflexion que nous on a fait à l'Agence régionale du livre à Rouen. Pour le moment. Moi, je me pose le problème de fiabilité de ce site par rapport aux droits d'auteur, je n'ai pas encore décidé de mettre au moins une BD dans le nouveau système qui existe actuellement avec des plaquettes. Donc, c'est en réflexion. C'est pas encore le moment, il me semble.
Christophe, tu veux compléter?
J'ai pas d'opinion.
C'est bien. Voilà. C'est court, c'est bref.
Ouais, alors j'ai une question, mais que répondent les éditeurs européens quand vous leur proposez vos scénarios ou vos références, en fait? Ouais.
Donc, ce qu'ils répondent fort justement, bon, il y a déjà un premier souci, c'est-à-dire que la bande dessinée est plus contrôlée par des commerciaux. Donc, qui demande une rentabilité le plus rapide possible. Donc, lorsque vous venez avec des personnages africains, ils se disent qui va acheter ça? Et donc, il faut prouver.
Malgré le succès de Aya de Yopougon, qui
tout à fait.
Est une démonstration que
voilà.
Ça peut marcher, quoi.
Donc il faut démontrer que c'est économiquement viable. Et en même temps, il faut essayer d'être lu sur le continent, quoi. Et c'est encore un peu compliqué pour des raisons de pouvoir d'achat, toujours.
Mais nous, on a eu des cas au Salon des livres de Paris où on avait une queue immense de personnes qui venaient pour la dédicace de la BD de Simon Kimbangu. Après, bon, d'autres éditeurs sont venus me voir, carrément. Qu'est-ce que c'est cette histoire de l'histoire de la bande dessinée africaine? Pourquoi vous avez tant de monde? Moi, je leur ai dit, mais la preuve que ça marche, si vous pouviez vous mettre aussi, essayer de promouvoir ces dessinateurs. On a eu les cas au Goulême, on a eu les cas à Paris, à Caen aussi, à Rouen aussi. Se dit que quand on se met vraiment dans la bande dessinée, on le fait avec... avec application, on y arrive. Bon, donc pour le moment, le problème, il est là. Les éditeurs, les grands éditeurs...
Ils sont frileux.
...ont vraiment du mal à pouvoir faire éditer nos jeunes dessinateurs. C'est ça, le problème actuel.
Ouais. De toutes les façons, le mieux, quand même, c'est de publier sur place et de sorte que quelques dessinateurs puissent en vivre ensuite. Si jamais il y a une édition en Europe, tant mieux, mais ne pas compter sur ça, quoi.
Est-ce que cette situation, elle n'est pas à mettre en regard aussi avec la méconnaissance finalement de, enfin, à la fois des éditeurs de l'histoire de l'Afrique?
Moi, ça, j'y crois pas trop. Je veux dire, si vous lisez, enfin, je donne un exemple très concret, quoi. Je suis pas sûr que la littérature d'auteurs africains, même écrite en français, soit extrêmement lisible. Je crois pas. Je veux dire, enfin. Alain Mabankou a du succès, mais Alain Mabankou n'est pas si simple que ça à lire. Donc je pense que c'est vraiment une question de, comment dirais-je, de cible commerciale qui n'est pas claire pour eux, enfin pour les éditeurs. Mes connaissances de l'Afrique et autres, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que c'est une question d'opportunité. Peut-être aussi. Il faut le dire aussi, peut-être, et Christophe l'a dit sous le coup de l'humour tout à l'heure, mais c'est aussi en partie un manque de talent. C'est-à-dire que vous avez de très bons dessinateurs, de très bons peintres, de très bons dessinateurs en Afrique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'auteurs que ça. Parce qu'entre quelqu'un qui a un très bon coup de crayon, même génial, et un auteur de BD... Il y a une marge. Il y a aussi un fossé culturel à franchir.
Oui, c'est tout à fait vrai. Parce que la bande dessinée, c'est pas que le dessin. Il y a la couleur.
Il y a le scénario.
Il y a le scénario, il y a le découpage, planche par planche, vignette par vignette. Comment faire ressentir une émotion en utilisant toutes ces possibilités-là. Donc, comment savoir raconter une histoire. Et ensuite... pouvoir intégrer tout ça dans son propre art en se basant sur l'art du masque et autres. Bon, on va dire qu'il y a une sorte d'appropriation, quoi.
Ça, si. Il fait allusion à... Okay.
Mais le problème aussi, c'est nous, les Africains, nous-mêmes. Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs... j'ai rencontré les ministres de l'Éducation, Machako, de l'enseignement supérieur, ça fait pas longtemps, avec les bandes dessinées. Je leur ai dit, mais écoutez, regardez ce que peuvent faire les Congolais. J'avais amené aussi le livre de Christophe. Regardez ce que nous, on est... comment est-ce que les Congolais de la RDC sont connus et ont un certain talent que nous, sur place, nous ne pouvons pas valoriser. C'est pas l'histoire des autres, c'est l'histoire de nous-mêmes. Donc, si tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous approprier de cette capacité d'éditer réellement nos bandes dessinées avec l'appui, parce qu'ici, on n'édite pas tout seul, on a toute une suite de structures qui nous aident pour trouver des financements pour éditer. Tant qu'on ne va pas y arriver là, on va toujours être en mal pour pouvoir... Ce n'est pas les écoles qui manquent en Afrique, pour pouvoir, ou ni l'histoire qui manque. Ça fait maintenant plus de demi-siècle. Donc l'histoire de l'Afrique existe bien. Ben, il faut que l'homme politique puisse se mettre, puisse avoir la volonté de pouvoir le faire.
Oui, ce que tu dis est très très vrai. On n'a qu'à voir ce qui se passe. Les fonctionnaires du ministère de la Culture sont extrêmement maigres, mais ceux de la censure, ils ont des 4x4 climatisés et autres, quoi. Donc tant qu'on n'inverse pas ça, bon... forcément, la bande dessinée, comme le cinéma, comme la littérature en Afrique, auront du mal à se développer. Et ce qui se passe ici, bon, c'est très très faible. C'est pas à la France ou à la Belgique de développer la culture du Congo, quoi.
Tout à fait.
Ou du Cameroun, ou de l'île Maurice, ou je sais pas quoi.
Donc en gros, les gens qui ne sont déjà pas reconnus chez eux ont souvent du mal à se faire reconnaître ailleurs, ça c'est vrai. Et en plus, il y a aussi donc un manque de scénaristes. Je crois que 20% des scénaristes africains sont présents à cette table, à ma gauche, à peu près. Entre 20 et 40%.
Oui, le problème de l'écriture, c'est un peu compliqué.
Ah, c'est compliqué. Ouais. Il y a de très bons auteurs, mais la technique scénaristique, c'est un truc qui n'est pas du tout maîtrisé, quoi.
Ce qui est compliqué, c'est de ménager la chèvre et le chou. Donc il y a des gens qui arrivent en utilisant une langue africaine à dire des choses très intéressantes qui échappe un peu à la sagacité du dictateur. C'est pas le cas de tout le monde, quoi.
Mais Christophe, moi, je pose la question...
Auquel
Par exemple, en RDC, il y a dans chaque province une école de beaux-arts où il y a la section bande dessinée.
Non.
Comment se fait-il à Kinshasa? Si.
Non.
Non?
Non, c'est section publicité.
Il n'y a pas de section bande dessinée?
Non, c'est ça le drame. Il n'y a pas d'école de bande dessinée en Afrique à part au Cap, à l'université de Stellenbosch, le repère des Blancs, africanaire, et aussi à Tétouan, au Maroc. Voilà, les deux pôles. L'axe, le Caire presque.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le mettre en place?
En fait, l'Académie des Beaux-Arts et autres sont très frileux par rapport à ça. Ils n'y croient pas. Il n'y a pas de marché pour eux. Donc... Non, il n'y a pas de section de bande dessinée. Aucun auteur n'est formé à la BD en Afrique. Ils sont tous formés à autre chose. Il n'y en a pas. Je crois qu'on en parle à Dakar, au Sénégal, d'en implanter une, mais je ne suis pas sûr que ça ait lieu. Ou à Abidjan, je ne sais plus. Ça. Excusez-nous, hein, on parle entre nous. Hein. Vous pouvez rester. Hein. Il y a des BD en vente, hein. Ceux qui veulent acheter, il ne faut pas hésiter. Hein.
Oui, on connaît quelques dessinateurs qui meurent de faim, ceci est 1,50€.
Oh putain, moi, moi c'est 10 euros quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des remarques. Madame Blanchard, vous voulez faire dire quelque chose? Madame Ousmery?
Bah alors, moi, j'aurais peut-être une dernière question. Si, pour rebondir sur celle que vous avez... La toute première question qui tournait autour de la place du téléphone, justement, dans la diffusion de la bande dessinée, avec l'arrivée du haut débit, en fait, en Afrique, parce que là, il y a quand même des travaux assez gigantesques qui sont en train d'être menés à la fois sur la partie orientale et... bientôt l'Afrique va être beaucoup plus, va avoir un accès beaucoup plus important à Internet, qui sera du coup peut-être un moyen de diffuser beaucoup plus facilement et de faire connaître la bande dessinée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'espérer en tout cas une diffusion et une connaissance plus importante de la BD?
Je sais pas, je vais laisser mes collègues répondre après moi, mais moi ce que je crois c'est que ça peut aider effectivement des auteurs installés sur place à ne pas émigrer pour envoyer leurs travaux. En gros, on pourra travailler comme si on envoyait ses planches depuis Périgueux, donc on peut espérer ça. En priant pour que il y ait enfin de l'électricité. Il faut quand même savoir qu'un pays comme le Congo Kinshasa, hormis grosso modo Lubumbashi et Kinshasa, qui est relié au barrage électrique, 90% du territoire, il y a des coupures de courant durant des mois. Donc déjà, ça manque. Et il n'y a pas qu'au Congo, partout. Soit sous forme de délestage, donc c'est de 9h à 17h du lundi, le mercredi, le vendredi. On le sait, donc on peut vivre en fonction de ça.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand on ne connaît pas, on voit des gens qui se déplacent. Mais où est-ce qu'ils vont? Ils vont en fait dans les quartiers où il y a de l'électricité. Ensuite, ils reviennent dans d'autres quartiers où il y a.
Ils se déplacent courant, selon les jours.
Voilà, donc. Ouais.
Mais c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est vraiment... si vous allez... 30 secondes, je passe la parole. Toute mon enfance, j'habitais à côté de la SONEL. Tu connais? Société Nationale d'Électricité à Douala, au Cameroun. Ouais. Bon, ben, lors des coupures de courant, c'était le seul point, le centre de la SONEL, qui était éclairé, évidemment. Tout le quartier était dans le noir, sauf eux. Bon, ouais. Il y avait 300 étudiants qui travaillaient parce que c'était le seul lieu où ils avaient de la lumière. Mais la nuit, à minuit, 1h, 2h du matin, les mecs venaient à pied avec leurs travaux, avec leurs livres pour pouvoir réviser. Qu'il n'y avait que là qui pouvait réviser à 5 km à la ronde. Donc on est loin. de, enfin voilà, enfin fait du courant et du courant de bonne qualité, parce que les variations de courant qui vous flinguent un ordinateur, y compris onduleur, hein, donc
c'est
quelque chose de banal. Enfin, moi j'ai perdu 3 ou 4 ordinateurs sur 5 ans, quoi.
Oui, les variations sont brutales. Voilà. Ça, c'est clair.
Après, il y a aussi l'accès à Internet qui coûte extrêmement cher. Ça, ouais. Au Congo, c'est 100 dollars par mois.
Je te coupe, Robert, excuse-moi.
Non, mais ce qui est dit est vrai. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, on est beaucoup plus en communication avec l'Afrique par Internet qu'il y a 10 ans.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Ça, il faut pas. Moi, mes cours à l'université de Goma, je leur envoie, ils m'envoient des copies difficilement, bien sûr, mais ça arrive quand même. C'est pour dire que je pense qu'il faut toujours positiver pour, comme j'ai dit à mes jeunes étudiants à l'Afrique, il faut que vous puissiez avoir des idées pour progresser. C'est pas parce qu'on est là qu'on va s'arrêter là. On est là avec nos difficultés et que l'homme a la capacité de beaucoup réfléchir, d'aller en avance pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pour ça que je pense que même au niveau de l'Internet, hein, à Goma, Goma, il travaille avec Kigali complètement maintenant.
C'est ce que j'allais dire. Ils sont reliés au réseau rwandais.
Ils sont reliés au réseau.
Alors, le Rwanda, c'est l'un des petits dragons d'Afrique centrale. Hein. Il faut le savoir. Quelquefois, la dictature a du bon. Hein. Donc, c'est vraiment du plus 6% chaque année de croissance économique. Donc, voilà.
Rwanda, c'est un pays qui est devenu anglophone.
C'est ce qu'on dit.
Le problème,
c'est ça.
Ouais.
Donc,
on verra.
Voilà.
À l'usage.
C'est difficile, mais c'est possible.
Je voudrais peut-être parler un petit peu de l'économie, c'est-à-dire pour cette affaire-là, qui coûte ici 2 euros, il y a 4 dessinateurs qui sont susceptibles d'en vivre, c'est-à-dire d'avoir des revenus d'à peu près 150 euros quand tout va bien. Sachant qu'au Cameroun, un instituteur touche à peu près 120-130 euros. Ouais.
Ah ouais.
Donc, c'est quand même pas si mal. Ouais. Voilà.
Il y a d'autres questions ? Bon. Si vous voulez acheter des BD, bon, à part ça qui n'est pas terrible, il y en a à 10 euros, là, enfin 9,90 euros, c'est le côté...
pour vous, un prix d'ami de 1,80 € au lieu de 2 euros.
Tu les vends
ou... Oui, mais il y a des BD aussi. Il y a l'équipe Simon Guimond, il y en a le tome 3 et l'amour sur les palmiers. C'est 10 euros aussi.
Voilà. On avait dit qu'on ferait court, mais... On peut en parler des heures, hein, si vous voulez. Merci de nous avoir invités. Hein. On est habitué à parler devant une assistance vide. C'est pour ça que j'ai dit à 3, ça ira, parce qu'à 5, on sera plus nombreux que les gens dans la salle. Ce serait déséquilibré. C'est bien, c'est bien. Non.